podcast.com. Essaye ça.
Le crachoir épisode 279, le chemin de fer clandestin. Salut Martin.
Frank, faut que je te raconte ça. Parce que je le fais-tu les actus conspires? Non, je vais te raconter ça. Vendredi dernier, c'était aux deux semaines, c'était l'édition de cette bi-hebdomadaire-là. Qui s'appelle Maillet TV. Maillet TV, ce que je fais, c'est que je regarde des affaires que moi, je considère niaiseux. Je comprends que c'est arbitraire, puis écoute, c'est mon show, fait que je regarde ce que je veux, puis moi, je trouve ça niaiseux. Puis en général, les gens qui m'accompagnent trouvent ça niaiseux aussi. Et je suis arrivé, ça va être un peu la thématique des actus conspis de cette semaine. J'en suis arrivé à la conclusion que, tu te rappelles, là, je veux dire, ça fait des années qu'on parle de ça, tu sais, qu'on dit que on est désabusé de la politique, les jeunes s'y intéressent pas, puis tout ça. Puis, évidemment, bon, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises décisions, il y a eu un paquet d'affaires, tu sais, il y a de la grogne à propos d'un paquet de services, c'est clair qu'il y a de l'amélioration importante à faire dans l'éducation, mm-hmm. dans le système de santé, dans l'immigration, la paperasse, le fonctionnariat, c'est correct, là. Mais moi, je soutiens, j'ai la prétention suivante, c'est que on est un peu, en tout cas, je parle pour moi, je veux pas généraliser, mais je suis un peu désabusé, moi aussi, parce qu'il y en a des moyens maillés. Puis ça, je suis désolé, mais c'est, puis quand je dis maillés, là, je mets autant les performances, les performances de comédiens de Bernard Drainville que le chef de l'Union nationale, puis que tu sais, des chefs de partis marginaux qui prétendent avoir fait des cours de cosmonautes. Je mets ça, non, mais je veux dire, je mets ça dans la même catégorie. Je mets ça dans la même catégorie, OK? Parce que ouais. C'est sûr qu'être maillet, ça a une autre connotation, c'est-à-dire que c'est facile d'en rire. Tiens, je vais dire ça comme ça. Mmh. Tu sais, comme dans le cas de Bernard Drainville ou dans le cas d'autres, il y en a plein qu'on pourrait citer, là, des affaires qui se sont dites, des lapsus, des affaires de même. C'est correct. Mais ils ne sont pas tous risibles. Tu sais, on va dire, hey, garde l'énormité qu'il a dit ou tu sais, des affaires comme ça. Mais le réflexe, ce ne sera pas toujours de rire. Mais tu as vu, je t'ai parlé du chef du parti de whatever, de l'amour du Canada, qui a dit à Guy Nantel qu'il avait fait un cours de cosmonaute. Oui. Puis ça t'a fait rire. Tu vois la différence.
Oui, formation d'astronaute, on s'en rappelle.
C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui est mon nouveau projet. Frank, fait que là, les gens qui nous regardent, les All-Stakers qui sont avec moi présentement, les gens qui nous regardent sur Twitch ce soir, les gens qui nous écoutent en podcast, si vous voyez quelques traces de ça, quelle qu'elle soit, peu importe le parti, là, OK? Que ce soit Parti québécois, Parti conservateur, Parti des bébites à poêle, Parti des
monstres aux toilettes, toute la gang.
Toute la gang, envoyez-moi ça. Sauf que ce que je veux pas qu'il se produise, c'est que je veux pas que vous m'envoyiez ça publiquement. Je m'explique. Taguez-moi pas, forwardez-moi pas des affaires. Non, non, non. Martin Godette, page pro sur Facebook, de GoMart sur X/Twitter. Envoyez-moi ça, ADM. Puis, je m'occupe du reste. J'ai un projet, je travaille quelque chose, puis les citoyens d'importance de la complosphère, je vais toujours m'y intéresser. Puis, sauf que ça fait 4 ans que je fais ça. Je pense qu'il est temps qu'on tente par l'humour. Tu sais, parce que c'est important ce que je vais dire là avant qu'on commence dans les actus conspires, parce que ça va être un peu de ça qu'on va parler cette semaine. C'est important, là. En disant ça, je ne dis pas que tout citoyen n'a pas le droit de se présenter en politique, là. C'est pas ça du tout mon propos. Pantoute, c'est un droit fondamental, c'est important. J'ai pas de problème, là. C'est pas contre ça que je me bats. Le sens de ma démarche, c'est de faire certain que tout le monde qui est en âge de voter au Québec est au courant des propos de ce monde-là. C'est tout, là. Je dirai jamais « vote pas pour lui » ou « whatever ». Non, ça sera jamais le sens de mon propos. Moi, ce que je vais te dire, ce que je vais faire, c'est que je vais dire « regarde, ce gars-là, regarde, cette femme-là, elle a dit ça. C'est-tu niaiseux? »
C'est ça. Enfin, dans le fond, tu veux pas critiquer la liberté de ces gens-là de se présenter, sauf que tu veux faire valoir notre droit de les traiter avec tout le ridicule qu'ils méritent, puis de mettre en lumière les pires affaires qu'ils disent. Parce que c'est ils les disent publiquement. Hein? Si on les sait, c'est parce qu'ils l'ont dit publiquement. Ils nous écrivent en privé.
Là, je vous le dis tout de suite, si vous m'envoyez des affaires, parce qu'il y a quand même 2-3 personnes qui nous suivent, là, je veux rien de personnel. Là. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, s'il y a un candidat qui se présente à la mairie de whatever, puis que, je sais-tu, moi, il y a des rumeurs à l'effet que sa fille a coûté. Non, ça ne m'intéresse pas. Là.
Sa femme le trompe,
on s'en sac. La vie publique. La vie publique, OK? Puis particulièrement, les élus. Parce que les élus, c'est du domaine public. Quand tu décides, bon, je comprends qu'il y a des choses qui sont privées puis qui sont pas d'ordre public, mais c'est tout ce qui concerne des propos qu'il aurait pu dire dans des journaux, dans des entrevues, ça m'intéresse, c'est mon nouveau... Et tout ça, pourquoi? À cause de la découverte absolument fantastique que j'ai faite. En fait, je dis découverte, je connaissais déjà l'existence de cette personne-là, mais... ça va composer l'essentiel de mes actus conspi, si tu veux qu'on y aille maintenant.
Vas-y.
Actualité conspi.
J'ai failli t'interrompre quand t'as dit les jeunes s'intéressent pas à la politique. J'ai failli t'interrompre en disant ouais, mais il y en a qui s'y intéressent, mais ils s'y intéressent mal, c'est-à-dire par le biais d'influenceurs puis de leaders conspi qui leur disent n'importe quoi. C'est ça qui est dommage, ouais. C'est que là, il y a comme une espèce d'intérêt chez certains jeunes, sauf que l'intérêt, c'est parce qu'ils suivent des influenceurs conspirationnistes qui leur disent des affaires passionnantes, mais fausses, tu sais.
Ben, tu sais, j'ai dit, puis je m'en rappelle comment je l'ai dit, on dit que les jeunes, tu sais, en toute franchise, tu sais, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de jeunes qui s'intéressent ou à quel point ça a chuté ou peu importe, je ne sais pas. Mais ça fait partie quand même, tu sais, ça fait un peu partie du lingo de parler de ça. Ah, les jeunes ne s'intéressent plus à ça. C'est peut-être pas vrai, là, ou c'est peut-être pas dans une proportion aussi grande que celle qu'on s'imagine. Mais, tu sais, je veux dire, je côtoie pas nécessairement de jeunes adultes à outrance. Fait que, tu sais, je veux pas avoir l'air de parler à travers mon chapeau. Sauf que je sais que ça a déjà été le cas, puis que dans les tranches d'âge plus jeunes, quand on regardait les résultats, entre autres, d'élections, ben ça n'a pas toujours été là que se trouvaient les plus grands pourcentages. Ça, c'est un fait, par exemple.
Moi, j'aime mieux qu'ils s'y intéressent pas que qu'ils s'y intéressent mal en pensant que un tel parti politique est avec le Deep State pour tuer des enfants. Là, la politique, c'est pas pour toi. Là, écoute des films. Là, t'aimes ça, des fictions? Là, écoute des films.
J'ai évidemment que je me suis intéressé passionnément à un monsieur qui s'appelle Nicolas Tétrault, qui a déjà annoncé qu'il allait participer à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je veux commencer par te dire quelque chose qui a été, en fait, des commentaires du chef par intérim, Marc Tanguay, au sujet spécifique de la candidature de Nicolas Tétrault. En fait, c'est dans le Devoir du 13 février qu'il en est fait mention. On mentionne que c'est sous la plume de sa presse canadienne. Thomas Laberge, la potentielle candidature de l'entrepreneur Nicolas Tétrault à la chefferie du Parti libéral du Québec a semblé provoquer un malaise chez le chef intérimaire Marc Tanguay, qui a tenu à rappeler qu'elle pourrait être écartée. En effet, questionné par un journaliste à savoir si M. Tétrault était le bienvenu au PLQ, considérant que des contenus de sa page Facebook flirtaient. Et là, flirter, c'est exact. Avec des idées complotistes, M. Tanguay a indiqué qu'il ne commenterait pas les candidatures individuellement, mais a aussi tenu à faire une précision qu'il n'avait pas faite lorsque Denis Coderre a confirmé son intérêt pour la course. Je tiens à réitérer que le comité électoral, comme ça s'est fait par le passé, va nous soumettre et va rendre publiques les règles de la course à la chefferie. Et il est à prévoir très clairement que dans ces règles, le comité électoral pourra, le COGEA, analyser une candidature et décréter que la personne, pour des motifs sérieux, ne peut pas être candidate. Fait que ça sera pas toi, on t'aime pas. Non, il va falloir qu'ils disent, toi, on veut pas de toi parce que...
ouais.
OK. Sur sa page Facebook, Nicolas Tétrault a partagé une vidéo sur le CO2 ayant comme sous-titre le réchauffement planétaire et les changements climatiques. Il y a tout là. Il y a du Robert F. Kennedy, il y a okay, la CO2, NASA, c'est une gamique. On m'a rapporté que il avait tenu des propos qui pouvaient laisser croire qu'il était platiste. Il a scrobé ses médias sociaux.
Ouais,
il est probablement. C'est ça.
Juste pour ceux qui sont pas familiers avec l'expression scrobber ses médias sociaux, ça veut dire tout enlever les publications sensibles ou qui pourraient te faire mal paraître avant de te lancer en politique ou de convoiter un emploi.
Je pense que c'est un terme assez consacré, là, mais l'endroit où il sévit le plus, c'est sur TikTok. Ce que j'ai fait, c'est que vendredi, grâce à des âmes très charitables, des bons samaritains, bonnes samaritaines, ce qu'on a fait, c'est que une des premières entrevues, c'est pas sa première, mais une des premières entrevues qu'il a donné, c'est à une dame qui s'appelle Christine Silver, et c'est une entrevue, Frank, de 4 heures, OK? C'est un entretien de 4 heures. Fait que ces âmes charitables, ce qu'ils ont accepté de faire, c'est qu'ils se sont splittés les heures en 4, puis ils m'ont envoyé des time codes. Puis moi, de ça, dans Maya TV de vendredi dernier, j'ai présenté ça en disant « Nicolas Tétrault en 43 clips ». Évidemment, je refais la mise en garde. Je refais la mise en garde, OK? Je ne prétends pas qu'avec ces 43 clips-là, on connaît la fibre intrinsèque de Nicolas Tétrault, là. On sait pas s'il aime le brocoli, on sait pas, tu comprends?
Mais ça veut pas dire
qu'en 43 clips pris dans une entrevue de 4 heures, on a fait la guerre des Boers avec Nicolas Tétrault. Ben non, c'est au sujet de ses propos publics, de ses idéologies politiques que ça m'intéresse.
Donner une bonne idée pareil, là, 43 clips, là, c'est...
C'est parce que je veux pas... Tu prends 43 clips, même si c'est dans quelque chose de 4 heures, ça veut pas dire que tu connais la personne. Pense d'un paquet de sujets, mais ça veut pas dire... Tu connais pas son système de valeurs, tu connais pas... Regarde,
non, c'est ça, il fait
histoire.
Peut-être la meilleure sauce de spaghetti du monde, mais s'il est platiste, c'est ça qui nous intéresse.
Sauce à spaghetti, mais d'autres affaires aussi qui permettraient pas nécessairement de dire que tu connais profondément quelqu'un. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le volet politique.
Tu peux en savoir assez pour décider de pas voter pour lui. Là.
Puis on va en parler. On va en parler plus dans l'after show. Je vais peut-être sortir quelques clips aussi pour Denis pour qu'il nous présente ça, les plus importants. Mais c'est là que l'illumination s'est faite pour moi, Frank, parce qu'à un moment donné, je vote pas libéral. Est-ce que le désabusement par rapport à la politique, ça serait pas d'en arriver à la conclusion que dans le fond, t'aimerais ça que Nicolas Tétrault gagne? C'est pas le quintessentiel désabusement, ça? ça veut dire que tu t'en sacres de l'appareil politique si tu fais « j'espère qu'il va gagner ». Puis moi, je trouve ça plat.
C'est dommage. Hein?
Je suis diverti, là. Are you not entertained? Oui, I am. Sauf qu'à un moment donné, c'est parce que ce monde-là, ce sont des gens qui vont gérer ou critiquer les gens qui nous gèrent. Et ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens, Frank.
C'est ça, un des cancer de la politique, c'est que la business du spectacle est en train de supplanter, le côté spectacle est en train de supplanter le côté administration de la job de politicien. En tout cas, c'est le cas aux États-Unis, là, clairement. Là.
Ouais, mais Frank, moi, je comprends ce que tu veux dire par là, mais moi, je te parle pas de divertissement, je te parle de compétences.
Mm-hmm. Mais c'est ça, on va lire des gens incompétents parce qu'on les trouve cool.
Dans le cas de... c'est parce que tu prends la position de ceux qui le suivent. Mais moi, c'est pas celle-là que je prends pantoute, là. Moi, qu'il soit drôle ou pas drôle, Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a les. Puis, c'est pas le parti pour qui je vais voter. J'ai jamais voté pour le Parti libéral au Québec. C'est pas compliqué. Sauf qu'à un moment donné, ben, ces gens-là, c'est un peu comme un avocat qui a le devoir de respecter l'appareil juridique, là. C'est un peu. Mais, fait que là, ça veut pas dire que je pense que Nicolas Tétrault, il a pas le droit. Ça veut dire que je considère que les partis, ils ont tout à fait le droit de dire non, tu brigueras pas à chefferie de notre parti, de notre parti. Fait que là, les premières affaires qu'il a mentionnées, tu sais, je te fais ça en survol, mais on va en écouter, c'est sûr, dans l'after show. Mais, tu sais, écoute.
J'ai hâte, là.
Non, mais je veux dire, il y a une opinion sur absolument tout. Puis, il y a très peu de nuances. C'est la NASA, c'est... McKinsey, c'est un bras du complexe industrialo-militaire américain. C'est pour pouvoir faire légalement des affaires qu'ils pourraient pas faire légalement avec le... Tu sais, ça n'arrête. C'est un 4 heures de feu roulant. Là.
Une théorie sur tout, puis il est
la NASA,
arrêté.
Ça coûte 200 millions par jour, puis il y a personne qui demande où ce que va cet argent-là. Écoute, je veux dire, les élections, c'est tout arrangé. Il s'est présenté au municipal, au fédéral. Il dit que c'est plus facile de riguer des élections au fédéral qu'au provincial. T'as juste à contrôler 20-30 bureaux de scrutin, puis t'es correct. Il affirme qu'il a suivi du monde qui était dans un autobus qui sont allés voter à 3-4 bureaux différents pendant des élections dans lesquelles il faisait partie, lui, comme candidat. écoute, ça dure 4 heures de temps comme ça. Puis le monsieur, il prétend que, écoute, il a suivi des formations auprès d'agences israéliennes comme le Mossad, que l'Israël sont très matures, avant Gaza, évidemment, parce que l'Israël sont très matures quand vient le temps d'ouvrir les portes de leurs services secrets. Ça n'a aucun bon sens, là.
Mais moi,
aucun bon sens.
En partant, ce qui me plaît déjà, c'est que, tu sais, d'habitude, ceux qui critiquent la NASA, qui se méfient de la NASA, pas mal tous dans la même catégorie. C'est ça, c'est des platistes. Puis moi, je les aime, les platistes. C'est la lie de la théorie de conspiration. C'est les gens les plus
ridicules. C'est le plus bas que tu peux aller.
Oui, c'est le plus bas que tu peux aller. C'est les plus ridicules et c'est les plus drôles et les plus divertissants. Puis,
des services publics, comme Bourbon dit, des services secrets publics. C'est complètement ridicule.
C'est très drôle, Denis. Ça.
Non, c'est ça. Tu sais, puis sa meilleure, c'est vraiment. Écoute, je vous raconte ça. Puis évidemment, c'est disponible en rattrapage là, sur patreon.com/ tout ce qui TV, pas crachoir comme on le voit ici. Là. Mm-hmm. Mais il explique qu'à un moment donné, il a tenu des propos publics parce qu'il s'est impliqué aussi dans la vie politique municipale. Il a tenu des propos publics dans lesquels il faisait la mention que c'est parce qu'il a tenu des propos au sujet de ce qu'il considérait comme important de fusionner l'Agence de revenus du Québec et l'Agence de revenus du Canada. Et il pense que c'est la raison pour laquelle l'Agence de revenus du Québec l'a pris en grippe et pourquoi il a dû déclarer faillite en 2014. Par contre, est-ce que je vais te lire de quoi qui date de 2014, puis tu me diras s'il y a de quoi là-dedans qui t'indique que, un, c'est à cause de ses propos, puis deux, parce que c'est un personnage public. OK? Cet ancien conseiller municipal, en parlant de Nicolas Tétrault, c'est un article d'Hugo Jonca du 17 avril 2014 dans le Journal de Montréal. Cet ancien conseiller municipal de Montréal se prépare d'ailleurs à perdre son penthouse du 14e étage, autrefois voisin de palier de la cousine de Gilles Vaillancourt, Ginette. Un particulier, Rami Batani, réclame les 250 000 qu'il lui a prêté à 15 % d'intérêt en décembre. Nicolas Tétrault a aussi reçu un préavis hypothécaire de 515 917 $ de Giorgio Tartalino, promoteur de la tour Rocabella devant le Centre Bell, un prêt à 12 % d'intérêt selon Serge Labelle, bras droit du promoteur qui fait des prêts de construction. T'entends-tu l'Agence de revenus du Québec là-dedans, toi?
Non, mais j'entends quelqu'un qui est dans la merde.
Des banques, des caisses des jardins, un architecte et son syndicat de copropriété ont aussi déposé des recours. Les problèmes de Nicolas Tétrault viennent en grande partie de trois copropriétés achetées dans la tour du 4500 des Cageux. La Sûreté du Québec a fait des perquisitions à cet endroit en 2012 au cours de son enquête sur Gilles Vaillancourt, accusé de gangstérisme et de corruption. Il a été reconnu coupable, rappelons-le. En 2012, alors que le courtier s'efforçait d'écouler les unités, les ventes dans le projet de l'entrepreneur Elias Coury avançaient péniblement. Nicolas Tétrault en a alors acheté 3 pour contribuer à faire décoller le projet et toucher ses commissions. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de les revendre parce que l'immeuble est entaché d'une sale réputation, évidemment, avec toutes les histoires de Vaillancourt et tout ça. Il n'y a pas d'histoire. Je te dis pas que l'Agence de revenus du Québec n'a pas été impliquée. Mais écoute-moi bien, là.
Non, non, c'est pas
le gars, il est toujours en train de dire « J'ai un chum qui travaille pour la CIA qui m'a dit que... » J'ai un chum, ça n'a aucun bon sens. Puis le pire, c'est que tu sais, là, comment il s'appelait déjà, Michel, le boss, là, l'astronaute, là. Tu sais, on le voyait, ouais, ouais. On le savait que c'était un coucou, il s'habillait en viking, puis des enfants à la main. Lui, là, il est en complet, là. Tu comprends? Il se présente relativement bien, il paraît bien, il s'exprime bien, tu sais, puis il tient des propos comme ça.
Non, lui, c'est pas écrit dans sa face qu'il est fou comme l'autre avec sa formation d'astronaute, là, puis...
Non, 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 mais tu sais, il affirme, tu sais, justement, là, que ben, tiens, regarde, donne-moi 2 secondes, je vais essayer de... Tiens, ça se peut pas, je peux pas, là. Je peux pas pour faire jouer 2-3 audios, là, c'est ben, pas vrai.
Pendant que tu vas les chercher, là, c'est parce que évidemment, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas rapport avec son opinion sur le fait de fusionner Revenu Québec et Revenu Canada.
Ben
mais c'est parce que ça a été difficile de créer Revenu Québec puis de rapatrier des pouvoirs de taxation pour la province de Québec. Ça nous a donné énormément de pouvoirs comme province, alors que avant on fallait quémander, quêter l'argent du Canada. C'est lui qui prélevait nos impôts, c'est lui qui les gérait, qui décidait quelle somme allait être consacrée à la province du Québec. Duplessis a réussi à aller chercher des pouvoirs de taxation. C'est une des rares bonnes affaires que Duplessis a fait pour le Québec.
Je vais te mettre, évidemment, là, il y en a 43, je ne ferai pas te jouer. Mais regarde, je vais commencer par te donner un petit peu, là, te placer dans le bon contexte, là, OK, pour que tu saches à quoi t'en faire.
Ouais.
Tout n'est vraiment pas comme on nous le dit. Et juste toutes les fois, je me dis, je peux en parler, en restant en vie, parce que le genre de truc que je sais, que je voudrais vous dire, mais que j'aimerais ça vivre l'année prochaine, vous comprenez? Il y a des trucs que je peux dire, je peux comme vous tirer dans les questionnements, mais je dois faire attention avec 6 enfants. Puis plus que si je questionne à un trop haut niveau, je suis vraiment comme devenu comme un target, comme une cible, vous comprenez?
Ouais. Puis attends, ça c'est mon... Là, je te le dis tout de suite, Frank, si tu parles pendant la vidéo, on t'entendra pas, OK?
Fait que, c'était juste très drôle, ça. Là.
Non, non, tu peux rire tant que tu veux, mais je veux dire, si tu veux ajouter des affaires, on les entendra pas. Fait que là, écoute ça, OK? Ce que je te mentionnais tantôt, mes chums du Mossad puis les services secrets publics, oui, puis oui, tout, oui. Écoute bien ça.
J'ai une bonne relation avec les services secrets israéliens, très, très bonne, le Mossad, très bonne relation avec l'armée d'Israël à l'époque, excellente, avec le service secret intérieur d'Israël aussi, très, très bonne, beaucoup d'amis, je connais le... Je connaissais l'ancien patron du Mossad, des services secrets israéliens aussi. Je suis allé à des formations conjointes avec le Mossad et la CIA aussi à New York. Donc, mais je suis pas salarié, j'ai jamais eu un sou noir de personne, d'aucune agence étrangère de services secrets. Et comme je vous ai dit préalablement dans l'entrevue au début, j'ai toujours voulu comprendre, Christine, un peu plus comment fonctionnait la société. Et c'est cette espèce de quête de la vérité qui m'a amené à différentes activités comme ça d'information ou privilégiées, très privilégiées. Et ce que j'aimais, c'est que au moins en Israël, avant tous ces conflits de Gaza, il y avait moins de tensions. Ce que j'aimais, c'est que c'est un des rares pays où leurs services secrets sont quand même ouverts, où tu peux aller une fois par année, 2 fois par année, aller suivre des formations avec eux, même si t'es pas un espion. Même si tu travailles pas pour eux, même si t'es pas israélien, ça montre beaucoup d'ouverture et de maturité. Je sais pas si tu comprends qu'une agence de services secrets te permette d'aller suivre des cours dans leur bureau avec eux, les côtoyer. On devrait faire ça au Canada. Je pense qu'on devrait acquérir cette maturité-là, tu sais, de montrer que oui, nous aussi au Canada, on est capable. Et ça montre qu'une grande, grande maturité, je pense, du pays de pouvoir faire ça. Et pour moi, ça me crée un réseau fantastique de contacts. Vous devez vous en douter.
C'est un menteur, c'est un débile mental.
Je le sais pas. Moi, écoute, je vais rester prudent.
Je crois-tu, c'est ça ma question, moi.
Ça me tente pas de dire que c'est impossible que ce gars-là ait assisté à une formation à New York. Parce que, regarde, là, tu sais, for all I know, tu sais, il y a peut-être un dude aussi d'un sous-sol d'église qui hey, je donne des formations.
Moi, non, moi, c'est ça. Moi, je te demande s'il invente ça de toutes pièces ou s'il parle vraiment à un gars qui fait croire qu'il est dans le Mossad du Internet. Non, t'sais, mais. Je veux dire, Stéphane Blais pensait qu'il parlait avec le premier ministre de la Suède. Là.
Ouais,
peut-être que lui, il pense qu'il parle avec un agent du Mossad, puis le gars, bon, il est mort de rire.
Mais en fait, tout le long de l'exercice, je vais appeler ça comme God. Ça, que je me disais, à qui me fait penser? C'est à quoi ça me fait penser? Je sais pas le nom du personnage, mais le personnage de Bill Paxton, le comédien Bill Paxton dans True Lies, l'espèce d'espion fake qui creuse la femme d'Arnold.
Oui, c'est lui! Hey, je suis un espion, puis là, tu fais ça, regarder ça. Partout. Hey, puis,
viens me rejoindre au Nichols à midi et quart. Je vais porter des lunettes fumées, je suis suivi. Tu sais, c'est comme ça.
Il l'amène dans son trailer, dans un trailer park. Là, bizarre. Non, je vis pas ici pour vrai. Là, ça, c'est un cover-up, c'est une cachette, puis... faire assembler.
Alors, c'est capoté. C'est vraiment très particulier. Puis, l'autre affaire qui m'a fait rire beaucoup aussi, c'est qu'à un moment donné, il dit que, puis je suis pas en je tiens à le dire, j'ai pas été en total désaccord avec certains de ses propos, notamment entre la connivence qu'il y a entre les compagnies d'assurance puis le gouvernement, tu sais.
Ben, la montre pétée, là.
Ils se font envoyer, tu sais, les compagnies d'assurance fournissent, c'est-à-dire, le gouvernement fournit les points de démérite aux compagnies d'assurance, puis là, ça fait en sorte que...
La collusion,
c'est ça, c'est un peu touché, je suis pas en désaccord avec lui. L'autre affaire, c'est que...
Comme tu dis tout le temps, une montre brisée donne la bonne heure deux fois par jour.
L'autre affaire, c'est qu'il parle, lorsqu'il parle des changements climatiques, puis tout ça, je vais te mettre une clip dans pas long, mais lorsqu'il parle des changements climatiques, j'ai pas cette clip-là, mais il a mentionné à un moment donné que ça serait important de plutôt que... Bon, il dit que c'est tout de la bullshit, là, c'est théorique, là, les changements climatiques. Mais qu'il faut s'attarder à la pollution, c'est ça qui est le plus important. C'est pas de mettre, tu vas peut-être être d'accord avec lui, c'est pas de mettre ton petit pot de lait vide dans le bac bleu autant que de fermer la fonderie Horn. Je suis pas en désaccord, tu sais. Fait qu'il y a des affaires que ça se tient. Mais.
Ça se peut, là.
Mais une des affaires qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est qu'à un moment donné, quand il parle de ça, il dit ça n'a pas d'allure, la connivence qu'il y a entre les banques, puis le gouvernement, puis entre les compagnies d'assurance, puis le gouvernement, puis tout. Il dit ça n'a plus d'allure, c'est rendu que des prêts, c'est 12-15%. C'est ça le taux d'intérêt qu'il y avait, lui, quand il n'a pas remboursé le monde. C'est fantastique, c'est merveilleux, il est absolument magique. Puis là, ben regarde, je vais t'en mettre deux, ça va durer un petit peu moins qu'une minute. Justement, là, il va parler d'écologie.
C'est comme un Maxime Bernier, mais drôle.
Ouais, il est pas mal plus drôle, en effet. Ben lui, il dit que...
Maxime Bernier est juste déplorable et pathétique, là.
Lui, il dit que Poilievre et Bernier, ça devrait fusionner. Il dit que Parti libéral, Parti conservateur du Québec, ça devrait fusionner. Il y a des belles affaires dans sa tête, là. Tu sais, c'est pas mal le fun.
Un beau bol de spaghetti mélangé.
Quand même les fondateurs de Greenpeace qui disent qu'il y a une pénurie de CO2 sur la planète. Fait que si on a un parti québécois qui est pro-CO2, combattre le CO2, c'est appauvrir la planète. L'important, c'est de combattre la pollution, la vraie pollution, pas des espèces de changements théoriques, absolument théoriques, qui arriveraient de toute façon. L'impact des humains sur les changements climatiques, c'est moins d'1/2, d'1/2, d'1%. C'est pas nous le problème. Si on veut combattre le problème, c'est combattre la pollution, pas les changements climatiques. C'est un objectif niaiseux, débile. Dans les années 70, on disait à tout le monde, j'ai des vidéos, j'ai mis sur mon Facebook, oui, on s'en va vers une ère de glaciation. Dans les années 80, on va avoir des pluies acides. Arrêtez la mascarade, c'est des bouffonneries. On vous laisse vivre le cerveau avec des conneries.
Fait que, tu sais, lui tout ça, là, l'OMS, l'ONU, l'OTAN, tout ça, c'est tous des mondialistes. Puis, il n'y a pas question. Puis, garde, ça, c'est ce qu'ils pensent des gouvernements mondialistes.
Le gouvernement mondial, j'en veux pas, tabarnak. Je veux qu'il y ait le maximum d'États en concurrence les uns contre les autres.
Ben.
Dans un pays, j'ai le loisir d'aller dans un autre pays. Je veux pas de gouvernance mondiale.
Bon, puis là, Il a fait état du fait qu'il était prêt à débattre avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe blablabla. Bla, bla. Et ouais. Là, ben, il mentionne qu'il aimerait ça, tu sais, discuter avec les d'autres, ou débattre plutôt, avec d'autres chefs de parti. Voici comment il pense que ça pourrait se dérouler.
J'aimerais bien ça débattre avec eux.
J'imagine.
Je jure. Donne-moi un bon, les chefs de parti. Bon. N'importe qui dans ces émissions-là, là, ça me ferait plaisir.
C'est sûr que je regarde ça, moi.
Il va être beaucoup plus agressif que là. Gentil, mais. Tu sais, là, je suis fin avec toi parce que t'es fine avec moi, mais je suis capable d'être dur.
C'est pas moi qui reste obstiné avec toi.
Je vais leur crisser une volée, je te le dis.
Ah oui, oui.
Je te dis, ça. Son taux Nichols, il vient de l'appeler pour dire hey, viens me rejoindre au Nichols, là, il y a du monde qui me surveille pis tout. Là.
Ben, dans les commentaires, on dit que c'est la groupie qu'on entend, là, Kristen Silver, serait aussi dans les services secrets avant, puis elle aurait
appartenu. Ben, ce qu'elle a déjà affirmé, c'est qu'elle avait travaillé pour la GRC.
OK.
Fait que c'est service secret, OK, là. On
mais tu sais, c'est toujours drôle de voir les. Les gens comme ça disent ah oh ouais, ils sont tellement confiants hein, pour débattre. Puis les platistes sont bien bons là-dedans. Hey, amène-moi-en un scientiste de la NASA. Ils disent scientiste parce qu'ils écoutent leurs affaires en anglais. Amène-moi-en un scientiste de la NASA. Moi, je t'ai démoli un après l'autre. Pif, paf, pouf, pif, paf, pouf. Puis quand il y a une vraie occasion qui se présente, ils font caca dans leur culotte. Puis ils vont se cacher dans la honte. Là. T'sais, c'est, je me souviens qu'il y en avait un quand l'époque où j'avais filtré pas mal les platistes. Puis quelqu'un que je connais à la radio, il avait dit « OK, parfait, j'ai booké un astrophysicien, tu viens-tu débattre? » Lundi, à 8h en onde. « Oh, vous allez faire du montage, faire mal paraître. » Non, tu vas être en direct, il n'y a aucune possibilité de montage. Là. Fait que tu un vrai débat avec un vrai astrophysicien, ça te tente-tu? Puis finalement, il est pas allé. Puis il y a un channel sur YouTube que j'aime bien suivre qui s'appelle Jubilee, qui vont rassembler des gens d'opinions différentes dans toutes sortes de domaines. Puis ils les font discuter ensemble. Puis au début, ben il y a un épisode que c'est des platistes et des astrophysiciens. Puis le platiste au début, il dit « Ah, moi te les démolir, moi, pif, paf, pif, pif, pif. » Je vous laisse deviner s'il est démoli ou non.
je continue dans la même veine parce que je vais revenir sur un politicien dont j'ai déjà parlé, mais évidemment qui m'a bloqué. Tu te rappelles, je t'en avais parlé de M. Marek Spachek, qui est le candidat désigné dans Mégantic Les Érables pour le Parti populiste du Canada. Écoute, sa dernière... Tu sais, puis là ça, je reste dans la... Je reste dans la lignée de ce que j'expliquais tantôt, là. Tu sais, là, je comprends qu'il est candidat désigné. Il n'y a pas d'élection à court terme. Fait que... Mais, tu sais, ce gars-là, il représente un parti politique. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça ce matin. Je ne vous ferai pas le fil au complet parce que c'est un peu complexe, mais en fait, il a publié sur il sévit sur X Twitter Marek Spasek, S-P-A-C-E-K, Marek avec un K. Il est vite, très vite sur la gâchette. Là, si, je vous conseille, vous faites ce que vous voulez, je vous dis pas quoi faire. Mais si vous allez là pour lurker, parce que si vous commentez, c'est
ça
fini.
Ça finit plus.
Ouais, ça n'a pas terminé. De fin, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, la dernière, c'est que il y a une publication qui provient d'une médecin qui a l'air assez saucée américaine, je pense. Et c'est une coupure d'article qui rapporte que il y aurait des enfants qui reviennent à la maison avec des condoms, des dildos en bois et de la pornographie homosexuelle à maison. Puis là, ben la personne qui m'a forwardé ça, a suivi le fil et tout ça, à part que cette patente-là, là, parce que ça, c'est comme Natural News, c'est comme toutes ces affaires-là, là, tu sais, que tu te fais envoyer ça, ils font exprès, tu sais, ils prennent le screen grab pour pas qu'on voit la source, mais ils pensent pas que si on fait juste taper le titre dans Google, on n'arrive pas à la même place. Il faut être maillé solide.
Il y a aucune, que beaucoup de monde font pas l'effort de faire ça aussi. Là.
C'est ça, il y a aucune source, quelle qu'elle soit. Après ça, t'as le même gars, là. Questionnez vos élus et exigez des réponses, agissez et insister. C'est quoi la photo? La photo, c'est... voyons, c'est parce que je veux le nommer. Moi. Zelensky, avec un chandail vert armé, là, mm-hmm. avec une croix dessus qui peut rappeler la croix gammée, mais qui ne l'est pas pantoute. Puis à côté, c'est Hitler avec la croix gammée. T'sais, c'est la même affaire. T'sais, tu vois?
Ouais.
Son autre, Écoute, ce sont les tu le savais pas toi, Frank, là, mais ce sont les Britanniques qui ont tué Alexei Navalny.
Ah, ben
et
oui.
Voici pourquoi il est envoyé au YouTube. Tu sais, ce gars-là veut se faire élire, là. Je comprends qu'il a le droit, je comprends tout ça, mais tu sais, à un moment donné, le Simonac. Et là, l'autre, c'est vraiment, celle-là est magique, parce que moi, je me suis toujours, comme plein de monde, je suis pas spécial, mais je me suis toujours beaucoup intéressé à la question de l'assassinat de John F. Kennedy. T'sais, j'ai regardé plein d'affaires, j'ai lu plein d'affaires, Puis tu sais, je suis pas un expert du tout, mais tu sais, je peux te dire que malgré que ça fasse facile, peut-être 25 ans que je m'intéresse beaucoup à ça, j'ai pas de théorie ben plus avancée que celle qui existe. Puis c'est difficile de pencher d'un bord ou de l'autre. Puis c'est difficile de se dire que c'est Lee Harvey Oswald tout seul à la bibliothèque qui est venu à bout avec un gun scrap. Il y a tout ça, là, c'est correct. T'sais, c'est probablement une des plus populaires, la théorie de conspiration, là. Sauf que, tu sais, ben, avec cette théorie de conspiration-là, on dit pas, si ta famille est pas d'accord avec toi, parle-le plus, là. Tu sais, c'est comme un violon d'ingres de s'intéresser à la chose historique autour de tout ça. Ben là, lui, il publie une affaire, puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais, c'est un gif, dans le fond, avec des petits cercles, des affaires. Puis là, il dit, pendant qu'on vous dit de regarder partout ailleurs et que le tout demeure, et que le tout demeure étrangement un grand mystère, les multiples trajectoires des projectiles s'explique plus facilement en regardant là où on vous a conditionné à ne pas prêter attention. Puis là, il y a un petit rond blanc. Puis là, tu vois les conducteurs. Puis ça serait les conducteurs. Tu sais, ça doit pas être le fun, là, vivre dans ce tête-là.
Mais tu sais, ton histoire d'enfants qui reviennent avec des dildos puis de la pornographie, c'est exactement comme l'histoire qui avait été inventée carrément en joke. Pour rire un peu des théories de conspiration, comme quoi il y avait des écoles qui avaient installé des litières pour les élèves qui s'identifient comme des chats, jamais été vrai. Mais encore aujourd'hui, il y a plein de conspis, puis plein de monde de la droite anti-trans qui croient ça dur comme fer, puis qu'ils sortent encore aujourd'hui, alors que ça a été démenti, alors que ceux qui ont inventé ça, ils ont dit « Non, on niaisait, là, gang de cave! » Mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui servent ça comme argument. Ben là, ça, où c'est que ça va arrêter? C'est rendu que des litières dans les écoles, les élèves chats, puis, tu sais, c'est pas vrai le cave, tu sais, mais, bah, en tout cas, moi, j'ai décidé que c'était vrai, tu sais, c'est exactement le même genre d'affaire.
Puis là, la dernière dont je vais parler, parce que je vais me choquer, puis je veux changer de personne après, c'est, il utilise une vidéo qui est clairement, OK, quelque chose qui sert à... comment je vais dire? Il faut que je fasse attention.
Bon, tu parles de
Spachek, ce sont trois hommes qui sont atteints de trisomie, qui font la cuisine. C'est clair dans la façon dont c'est présenté. C'est pas nécessairement... c'est humoristique, mais c'est pas dénigrant.
OK. Mais là tu es parti de Spachek ou de Tétro?
De Spachek.
OK.
Non, c'est fait, j'ai pas revenu à Tétro.
OK,
Fait que là, ben, tu sais, c'est mignon. C'est un peu comme, tu sais, des fois, tu vas voir ça sur YouTube, là, des gens qui ont le syndrome de Tourette, puis ils nous montrent c'est quoi leur réalité de dater, tu sais, de rencontrer des personnes du sexe opposé, puis là, ça donne lieu à des imbroglios qui peuvent être. Tu sais, ça dédramatise un peu tout ça, puis c'est clair que c'est ça l'objectif de cette vidéo-là, tu sais. Lui, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de cette vidéo-là pour dire voici un parfait exemple des partis de l'establishment travaillant au Parlement, joyeusement préparant ensemble l'avenir du Canada. Votez Parti populaire du Canada pour sortir de ce cirque.
OK, pour lui, c'est des bêtes de cirque. Pour lui, c'est des bêtes de cirque. Il comprend pas le vrai message de la patente. Non. Il s'en sert pour dire, regardez les Mongols qui nous gouvernent. C'est ça qu'il dit. Là.
Exactement.
Bastille de cave.
C'est ça. Fait que c'est pour ça que je continuerai pas beaucoup plus longtemps à parler de ce monsieur-là, parce que, bon... Mais ça, tu vois, ça, c'en est des exemples. Ça, puis écoute, la bonne nouvelle, là, puis tu sais, sortez-moi, là, tu saurais pas en parler parce que le gars, il a pas de reach. C'est correct, là. C'est un point valable. Sauf que moi, je suis pas capable de farmer ma gueule avec des affaires de même. Il n'y a rien à faire. Perdez pas votre temps. Dis, ouais, mais là, Martin, tu le fais spinner quand tu fais ça. Je m'en sac. OK? Je m'en fous.
Non, mais de toute façon, on a déjà parlé, là. Parlez-en bien, parlez-en mal. Mais c'est pas vrai, ça, OK? C'est pas vrai. Dès que tu parles de quelqu'un, tu sers sa cause. Ça. Quand tu le montres à quel point il est épais, démagogue, puis tu sers pas sa cause, là.
Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'il y a un autre aspect à ça, là. C'est que même si, tu sais, même si moi et toi, on est d'accord, là, parle-en bien, parle-en mal, c'est pas vrai, puis da, da, da. C'est parce que si j'envoie du monde sur son profil, ça fait spinner son algorithme.
Ah oui, 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 c'est vrai. Mieux. Bien, c'est
dans ce sens-là que je dis ça.
Okay.
Mais moi, je fais confiance, j'essaie, en tout cas, c'est peut-être naïf, mais j'essaie de faire confiance à l'intelligence du monde, à tout le moins qui nous suivent, nous autres.
Mm.
Okay, parce que je pense pas qu'il y ait de ses fans qui écoutent le Crash War.
Non, on y envoie pas des nouvelles brebis dans son troupeau. Là.
Non,
on envoie des
comme,
loups. On envoie des loups.
C'est comme Nick Dénommé disait, un moment donné, il répondait, puis je l'ai dit aussi, puis on est pas mal tous d'accord. T'sais. Le monde, mettons, j'expose une niaiserie qui a été dite par Plux Media ou par François Sans-Foi à Maléga ou peu importe. Hey, regarde, tu peux bien rire, toi, regarde, tu fais de la publicité. Alors, regarde, je pense pas avoir envoyé ben de donations à Plux Media là, depuis 4 ans.
Non, c'est
là.
Ça. Moi, j'ai pas de problème à envoyer des.
Ça m'énerve pas,
j'ai,
là.
J'ai pas aucun problème à envoyer des renards dans leur poulailler, là.
Alors, c'est ça. Ça m'inquiète vraiment pas. Non. Je me dis pas, oh fuck, il y a peut-être quelqu'un qui a donné 10$. Je m'en sers.
C'est pas quelqu'un qui nous écoutait. Là.
Fait, encore une fois, j'insiste, la chose politique n'est pas que provinciale ou fédérale. Elle peut être municipale. Et moi, je continue je considère que j'ai le droit de rire de quelqu'un qui administre une ville où je n'habite pas. Tu sais, à un moment donné, je m'en sacre, là. C'est des personnalités publiques. Puis là, faut que je te parle. Tu n'as sûrement déjà entendu parler. Faut que je te parle de Mike. Je sais pas si on dit Duggan ou Dugan, mais en tout cas, D-U-G-G-A-N, mais Jim Duggan disait Duggan. Donc, on va dire Mike Duggan.
Comme le lutteur,
okay? C'est un conseiller de Gatineau. Et, écoute, les premières fois que j'ai entendu parler de ce gars-là, c'était, en fait, en février 2022, évidemment. On était dans la foulée des événements d'Ottawa, tout ça. Tu sais ce que cet épais-là, il avait dit? Il a présenté des excuses, évidemment, mais la citation, là, c'est, il parlait du drapeau confédéré.
Mm-hmm.
Qu'on voyait à Ottawa. Je te dis pas, il y en avait 10 000, mais tu sais, j'en ai vu, là.
Ouais, c'était manqué.
L'utilisation de ça, c'est une citation. L'utilisation de ces drapeaux dans le contexte d'Ottawa 2022 ne doit pas être considérée comme raciste ou incitant à la violence. D'après mes observations, ils étaient utilisés comme symbole de la dissidence. Mais quel crapet! Mais quel... Non, le drapeau confédéré, c'est pas raciste. Quand tu sors ça, c'est pas parce que t'es raciste. Non, c'est parce que t'es dissident. T'es ben colon!
C'est juste le symbole ultime des suprémacistes blancs qui étaient en faveur de l'esclavage, dont je vais parler tantôt, là. Mais tu sais, ça me fait penser quand notre Reynald Burger en avait mis un sur son terrain. Tout super fier, puis...
Mais là, faut que je continue parce que notre bon Mike Duggan, il est pas mal intéressé. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai attrapé ces coupures de journaux puis de publications là sur le compte Twitter Nanny Mambo que j'aime bien suivre. Le Devoir sort un article dans lequel il mentionne que Moderna dévoile son usine de vaccins à Laval qui devrait être en mesure de fournir des vaccins à tous les Canadiens au cours de l'automne 2025. Mike Duggan, AXA Mike Duggan, qui n'est pas capable de s'ordonner. Les traitements par ARN messager doivent être arrêtés immédiatement. Une enquête devrait être lancée sur les impacts de traitements à ARN messager, notamment sur nos jeunes femelles.
Quoi?
Oui!
Ah, il a traduit quelque chose. Il a vu female, tu sais, parce qu'en anglais, female, ça se dit plus, là. Mais...
Les résultats sur les. Ben, peut-être c'est parce qu'il est anglophone aussi, Frank, et Mike Duggan. Les résultats sur les effets indésirables de l'ARN messager doivent être rendus publics et discutés ouvertement. Mais moi, j'y crois pas à ta théorie parce que tout est super bien écrit, là. Quelqu'un qui aurait de la misère en français, la seule affaire que je verrais, c'est que son sel, il était en clavier anglophone, puis l'autocorrect a dit femelle au lieu de female. Je comprends, là.
Mais c'est pas très adroit, là.
Ben, tu sais, je veux dire, puis en plus, le pire, c'est que en plus, ça se peut, ça. On a tout fait des coquilles, puis des autocorrects de marde. Mm. C'est pas ça. C'est que il y a le blue check sur Twitter. Il aurait juste eu à sorler, puis faire edit, là, tu sais. Mais quel...
Nos femelles!
maïs. C'est incroyable. Puis là, ben écoute, il y en rajoute. Hein. Écoute, je te lis des armes. Nous, on parle évidemment des mesures sanitaires et tout ça. L'Ukraine aussi. Tout est dans là c'est l'Ukraine, mais tantôt c'était évidemment la vaccination. Nous devrions, fait que là, envoyer de l'aide humanitaire ou monétaire à l'Ukraine. Mike Duggan, tu penses quoi de ça avec ça? Nous devrions exiger un référendum sur cette question. Legault a montré son côté totalitaire pendant la pandémie, alors que la population du Québec était parmi les plus réprimées sur Terre et maintenant il encourage la guerre loin du front avec notre argent et potentiellement avec nos fils. Non au meurtre et à la destruction. Oui à la paix et à la reconstruction. Non aux autoritaires au pouvoir. Oui à la démocratie et à la liberté.
Quel crétin! Oh, c'est un malade, ce gars-là.
Puis le hashtag, c'est paix sur terre.
Ah ben oui, ben c'est comme quand les conspis nous disent ils nous envoient chier en nous disant être dans l'amour, tu sais. Nous autres on est dans l'amour. Pis si tu veux pas être dans l'amour avec nous autres, ben crève mon sale. Tu sais c'est.
Puis il y a quelqu'un qui fait un commentaire. Il faut pas oublier que Duggan a été le candidat conservateur fédéral défait la dernière élection. Duggan faisait campagne pour l'élection fédérale pendant qu'il était conseiller en fonction. Ça vous donne une idée du personnage. Oh. Attends, je pense que j'en ai un. OK, bon, voilà. Ça ici, c'est encore une fois, tu sais qu'il y a été fait mention que, je me souviens pas de son nom, mais la mairesse de Gatineau a démissionné parce qu'elle trouvait ça un peu trop intense, puis tu sais, du harcèlement, puis des affaires humaines. Madame Buzetti, une simple recherche sur Google montrerait que votre ancien maire a été assez direct en me dénonçant publiquement alors que je tentais d'introduire un débat démocratique sur les mesures pandémiques imposées par le gouvernement Legault en 2020-2021. Vous, agents des médias, pouvez tous être amis et vous soutenir mutuellement sur vos plateformes respectives, mais ceux qui ont été piétinés et ceux qui ont essayé de s'exprimer se souviendront de la tyrannie que nous avons vécue et de ceux qui ont collaboré avec les autoritaires qui nous dirigeaient. Ce gars-là est capable d'écrire en français.
Oui, oui, oui. Mais tu sais, traiter quelqu'un de cave quand il est cave, c'est pas de la tyrannie gouvernementale. D'ailleurs, t'as eu l'occasion de dire tout ce que tu voulais, puis tu l'as encore aujourd'hui. Ce qui est exactement l'inverse de la tyrannie. Maudit cave.
Puis je t'en lis un dernier. C'était dans... ici, Ottawa, Gatineau. Je sais pas la date, c'est une capture d'écran. La ville de Gatineau a dû expliquer cette semaine pourquoi des liens Internet menant à des plateformes web associées à la droite conservatrice se sont retrouvés sur le site officiel du conseil municipal sur la page de l'élu Mike Duggan. Il s'agit de sites tels que Rumble, une plateforme canadienne de diffusion de vidéos populaires auprès de plusieurs personnalités conservatrices qui se disent victimes de censure sur les plateformes. J'imagine que c'était du Sornet Strudel.
Et tu dis qu'Axa Duggan a fait le Royal Rumble.
Ouais, il a gagné le premier, en fait.
Ah oui, bon, ben lui, il va gagner le Rumble. 92. Le Rumble qui n'est pas royal sur Internet.
Non, mais j'ai trouvé un meme que je vais faire. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis à vous autres, les autres, je m'en sacre. Puis je parle aux gens qui écoutent le crachoir, puis tout ça. Mais il y a une superbe photo de ce crotté de Général Lee que je vais refacer avec Mike Duggan et ça va être juste parfait. Puis je vais en faire un autre à côté où il va se transformer en AXA Mike Duggan et ça va être très savoureux. Fait que là, je veux juste faire un recap de ce que j'ai parlé tantôt. Je veux juste vous dire, si vous trouvez des niaiseries, des commentaires épais, vous le savez de quoi je parle. Je suis pas obligé de vous expliquer, là, ça prend pas de fil. La seule chose que je veux que vous soyez certains, pour ceux et celles qui vont m'envoyer des affaires, envoyez-moi pas ça. Je veux que vous me fassiez parvenir ça en privé, soit Martin Godette Page Pro sur Facebook ou Degomart sur X Twitter. Et je serai très assidu à aller. Fait qu'on se concentre sur des personnalités politiques. J'ai une préférence pour local. Hein? On parle des nôtres ici, là. Tu sais, me sortait un politicien de peu importe. En Europe, là, ça peut m'intéresser, mais je m'intéresse vraiment municipal, fédéral et provincial. Puis voilà, fait que c'est un peu ça. Puis là, ben Frank, j'ai un dernier sujet, je vais le traiter rapidement. Tu sais que Héloïse Bois, Hélo veut savoir, je sais pas si ça te dit quelque chose.
Oui, absolument.
Puis elle a lancé un recours collectif, elle, contre, tu sais, a décidé qu'elle s'en prenait à Google. En fait, le recours collectif concerne tout adulte qui, à partir de, je pense, c'est quelque part en mars 2020, pardon, s'est vu censurer quelque chose sur Google, en gros, là. Et là, ben, c'est Francis Pilon qui a sorti cette nouvelle-là, à l'effet que, en fait, faut pas penser que c'est une quelconque victoire, quelle que ce soit, d'Éloïse Bois. C'est que, en fait, c'est tout simplement que on n'a pas encore autorisé le recours collectif et Google voulait interroger Éloïse Bois. Fait qu'ils ont fait une requête pour avoir l'autorisation de s'entretenir avec elle pendant une heure et demie. Et la décision du juge, je l'ai lue, ça fait juste dire, il est trop tôt. En gros, là, vraiment à haute altitude, je suis pas juriste, allez-y si vous voulez, Francis Pilon sur son Twitter, l'adresse est là du lien Canly pour le jugement. Mais en gros, tout ce que ça veut dire que on est trop tôt dans le processus pour que vous ayez le droit d'interroger la demanderesse. Fait qu'on va continuer de se pencher sur est-ce qu'on peut autoriser le dit recours collectif et le cas échéant, on vous autorisera ou pas à lui parler, mais je vois pas comment il pourrait ne pas lui parler. Puis évidemment, ben c'est dans le contexte de c'est dans le contexte de la vaccination, de la pandémie et tout ça. Puis évidemment, on a vu. Puis là, ben elle, ce qu'elle allègue aussi, c'est que en fait, la une des raisons pour lesquelles Google voulait la rencontrer, c'est que ok, tu dis que tu as perdu tes contrats de pige, tu dis bon, évidemment les vidéos, on en déduit que tu faisais une pièce avec ça, puis tout. On veut savoir combien. T'sais, combien t'as perdu un contrat de pige, là, t'sais, fait que. Mais ce qu'elle réclame, c'est 2 000 $ pour chaque adulte depuis, je pense que c'est 15 mars 2020, qui se serait vu retirer une vidéo ou censurer, ou peu importe, sur la plateforme, principalement sur la plateforme YouTube.
Plateforme privée, là, une compagnie privée.
Parce que elle, ce qu'elle allègue, non, mais c'est pas fou, par exemple, son affaire, ça marchera pas, mais c'est pas fou. Elle, ce qu'elle allègue, c'est que tu sais, à un moment donné, YouTube, les conditions d'utilisation, là, ça peut changer, ça. Mm-hmm. Puis là, ben, à un moment donné, quand la pandémie est arrivée, ben, ils ont dit, tu pourras pas publier des affaires qui vont à l'encontre des recommandations de santé de l'OMS. OK? Fait que, mettons, les vaccins, ça tue, pouf, tu disparais.
Déréférencé ou délité.
Non, mais la terminologie, c'est va être retiré toute vidéo qui fait la promotion de mesures qui vont à l'encontre de ce qui a été promulgué par l'OMS. En gros, là, c'est ça. Je te résume ça. C'est un long paragraphe de même. Fait qu'elle a dit qu'en vertu de la loi sur la protection des consommateurs, c'est un changement de contrat entre deux parties qui est changé sans l'avoir avisé. Fait qu'elle, c'est ça qu'elle allègue, sauf que là, ben là, ça va être du gros droit, écoute, pété, parce que est-ce que Google s'est soumis à la loi de la protection du consommateur au Québec, puis là, tu traverses en Ontario, puis c'est soumis à la loi, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il y en a en Simonac, des pays, puis des provinces, là. Fait que je dis pas qu'elle n'a pas un point, mais j'ai hâte de voir. C'est un peu comme au début de la Fédéla Tapouette. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça va donner, tu sais. Mais j'ai pas l'intention de. Parce que je
ben, comme la Fédéla Tapouette, c'est le genre d'affaire qui pourrait partir d'un bon point, mais qui va finir par dégénérer en mal. Parce que c'est tout ce qu'ils savent faire.
Ouais, ouais. Parce que. Puis l'autre affaire qui est importante, c'est que moi, Tommy, tu sais, tout le monde qui fait un peu des choses similaires à ce que moi et toi on fait, ben, on s'en est tous fait retirer des vidéos. Mais c'est parce qu'on exposait les effets qui disaient ça. Tu sais?
Fait que, il faisait pas la nuance de quelqu'un qui dénonce un épais en montrant de l'épais lui-même. Là, tu sais? Fait que eux autres, on va juste pas y voir.
Tu sais, à la limite, là, je veux dire, il y a une partie de moi qui n'est pas en désaccord avec ça. Je suis à l'aise avec ça, c'est correct. Sauf que, tu sais, de toute façon, la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube à l'époque de Ménage du Dimanche ou celle de Touski TV, tu sais, on fait pas une scène avec ça. Fait que, j'irais pas demander 2 000 $ en réparation.
Non, parce qu'on perd rien, c'est ça.
Non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça. Fait que envoyez-moi vos affaires, envoyez-moi-les en privé. Pas sur MDD, pas sur Touski TV. Non. Martin Godette, page pro ou de GoMart sur Twitter. On va se faire bien du fun.
Hey, c'était des grosses actus conspies, je suis brûlé. Je vais essayer de trouver l'énergie pour faire mon sujet, mais Colin, les deux que tu nous as présentés, les principaux, là, je suis brûlé mais
il est important,
de ça. Là.
Il est important, ton sujet.
Ah oui, quand même. Fait que on fait une petite pause. Je vais aller réchauffer mon café puis reprendre des forces pour vous présenter ça dans les prochaines minutes.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Le crachoir épisode 279, le chemin de fer clandestin. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, le chemin de fer clandestin, les Underground Railroad de son vrai nom, c'est pas un chemin de fer avec des rails puis des trains puis des wagons, c'est un réseau d'itinéraires qui servait aux esclaves américains à fuir le pays de la liberté au pays de la liberté, entre 1619 et 1865, il y avait beaucoup d'esclaves. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui était très répandue, hein, dans les empires coloniaux, pour faire fleurir l'économie. Rien de mieux que des employés qu'on paye pas, autrement que par de maigres rations. Puis, fait qu'on se servait de ça pour faire fleurir. Tu sais, il y a une grosse partie de la fameuse richesse des Américains qui a été bâtie, notamment grâce, ou plutôt, en tout cas, ouais. Grâce aux esclaves, mais tu sais, évidemment, c'était
bon,
pas
c'est
leur
bon
propre
pour le
chef.
Bas de page. C'est bon pour le bas de page. Tu sais, quand t'as pas de salaire à payer, ouais, c'est sûr qu'il en reste plus à la fin.
Oui, il en reste plus. Sauf que, évidemment, ça fait de toi un esclavagiste, qui est probablement l'affaire la plus immorale que tu peux faire dans la vie, surtout sur un point de vue politique. Fait que je vais vous parler de ça un peu, mais d'ailleurs, je suis en train d'écrire un article qui va paraître sur le blog du Québec sur le chemin de fer clandestin. Mais je vais aller un petit peu plus loin que dans mon article, parce qu'en revisitant ça aujourd'hui, je me suis intéressé à une autre partie qui va vous intéresser, je l'espère.
Mais j'ai une question pour toi. Le fameux chemin de fer clandestin, il y en a aussi, corrige-moi si je me trompe, mais il y en a qui servaient de ça pour s'en venir ici aussi. Là.
Pour s'en venir
ici. Il y en a qui se sont servis de ça pour s'en venir au Canada. Là.
Des esclaves?
Oui.
Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, ça partait dans plusieurs directions.
Il traversait les lignes, mais il se rendait à quelque part qui était plus proche du Canada. Puis
ça traversait les lignes. En fait, ce réseau-là partait des États esclavagistes pour aller soit dans des États abolitionnistes, comme le Vermont puis New York, où il y en a qui fuyaient vers les territoires du Nord-Ouest. Il y en a qui allaient vers la Floride, qui pendant une partie de cette période-là a été sous domination espagnole, qui n'était pas encore américaine. Puis il y en a qui fuyaient vers le Mexique, puis il y en a beaucoup qui fuyaient vers le Canada. Il y en a qui arrivaient direct au Québec, au Canada, au Bas-Canada, puis d'autres en Ontario qui étaient le Haut-Canada. En fait, c'est un réseau qui partait un peu dans toutes les directions, qui servait aux esclaves à fuir le pays de la liberté pour avoir une vraie liberté. Ce réseau-là, c'était constitué de passeurs, des gens qu'on appelait des conducteurs de train. En fait, le Underground Railroad, c'était un langage codé pour parler de ce réseau-là sans en parler trop ouvertement. Donc, ce qu'on appelait, par exemple, des stations ou des gares, des stations de métro, pas des métros, mais de train, ça pouvait être des maisons de métro.
Il arrivait par Berry, puis il embarquait sa ligne verte après.
Mais les stations, c'était soit des maisons de gens qui collaboraient avec ce réseau-là, des granges de fermes, des églises, même des grottes, des n'importe quelle cachette où ces gens-là pouvaient se cacher le jour, parce qu'évidemment, ils voyageaient plus de nuit pour échapper aux autorités esclavagistes. Il y a des patrouilles qui partaient à la recherche d'esclaves en fuite. Puis ceux qui se faisaient prendre, leur destin n'était pas très radieux, on va le dire comme ça. Ils se faisaient battre, puis souvent, ils se faisaient tuer. Puis en exemple, devant les autres esclaves, pour inspirer la terreur, pour que les autres aient peur de partir. Donc, les complices qui étaient soit... parce que dans le réseau, évidemment, c'était dirigé par des abolitionnistes, des gens qui voulaient voir la fin de l'esclavage. Il y avait là-dedans des religieux, des fameux Quakers, les Friends, là, c'est une dénomination protestante chrétienne qui était anti-esclavagiste. Il y avait des Amérindiens, des Afro-Américains libres. Il y en avait des Noirs qui étaient libres à cette époque-là aussi et collaboraient à sauver leur frère et leur sœur qui étaient pognés là-dedans. Puis aussi des gens, des des Blancs, des colons, des Américains, qui avaient juste comme des valeurs morales, tout simplement, tu sais, puis qui s'élevaient contre ça. Fait que la plupart ont pas été reconnus, parce qu'évidemment, ça opérait dans la clandestinité. Donc, les conducteurs menaient ces gens-là de station en station. Puis, ces endroits-là où on les accueillait, où on les cachait, on les soutenait aussi financièrement pour leur voyage, on leur fournissait des vivres, des denrées pour qu'ils puissent toffer, un endroit pour se reposer, on faisait on organisait la logistique pour se rendre à la prochaine station avec le conducteur qui lui menait ces gens-là vers la liberté. C'était vraiment des héros qui faisaient ça, tu sais, sans aucune. Aujourd'hui, tu peux plus voir quelqu'un donner de l'argent à un robineux sans qu'il se filme pour mettre ça sur TikTok, là. Mais dans, eux autres, c'était vraiment les bonnes raisons. Ils faisaient ça dans la clandestinité absolue. La plupart n'ont jamais été reconnus publiquement pour leur rapport, alors que, tu sais, au risque de leur vie, parce qu'eux autres, s'ils se faisaient arrêter aussi à aider des esclaves à fuir, ça devenait des criminels aussi, parce que l'ordre établi, c'était l'esclavagisme, c'était légal, là. Fait que ces gens-là agissaient dans l'illégalité pour... en concordance avec des valeurs humaines qui avaient de l'allure. T'sais. Puis c'était tellement comme décentralisé, il n'y avait pas de quartier général ou rien, fait que c'était très difficile à infiltrer ou à éradiquer pour les autorités esclavagistes, parce qu'il n'y avait pas de tête dirigeante, il n'y avait rien de ça. Fait que si tu empoignais un, ça voulait pas dire que tu allais empoigner d'autres, ça voulait juste dire que le prochain itinéraire allait skipper cette station-là de train, parce qu'elle était compromise, mais le réseau continuait, puis ça a duré des années. Ça a vraiment été tout un exploit pour ceux qui ont opéré ce réseau-là. Puis, tu sais, il n'y avait pas de gain, hein. Puis, ils ne faisaient pas une scène en faisant ça. Il n'y avait pas de. Le seul gain, c'était un gain moral d'agir de façon humaine pour combattre l'esclavagisme, qui est probablement une des actions les plus inhumaines qu'on puisse commettre. Même si c'était légal à cette époque-là. Fait que c'était très difficile. Il y avait des chasseurs de primes, il y avait des chiens pisteurs, il y avait toutes sortes d'affaires qui se lançaient à la poursuite des esclaves. Fait qu'ils réussissaient quand même la plupart réussissaient à arriver à destination, soit au Mexique, en Floride, ou dans les territoires du Nord-Ouest, pas les territoires Nord-Ouest canadiens, mais américains, parce que l'Ouest n'était pas encore développé à cette époque-là. Il y en a certains, par exemple, qui ont marqué la mémoire, qui ont été connus, notamment l'abolitionniste et une des plus grandes héroïnes du chemin de fer clandestin, qui s'appelle Harriet Tubman. Elle a vécu entre 1820 et 1913. C'est une des figures de proue de ce mouvement-là. À elle seule, elle a sauvé des centaines d'esclaves. On l'a surnommée la Moïse noire, hein, parce que Moïse guidait son peuple d'esclaves hors de l'Égypte dans la Bible, là, c'est pas arrivé dans la vraie vie, mais elle a fait ça dans la vraie vie, puis elle a sauvé beaucoup de gens comme ça, fait que elle a hérité de ce nom-là. D'ailleurs, on voulait, à l'époque de Barack Obama, on a décidé d'honorer sa mémoire d'une maudite belle façon. On voulait mettre son portrait sur les billets de 20$ à Harriet Tubman, pour remplacer Andrew Jackson, un président américain esclavagiste qui lui-même avait plusieurs dizaines d'esclaves à son service pour le rendre riche et qui a, en tant que président, déporté des dizaines de milliers d'Autochtones, d'Amérindiens de leur terre. Il a tassé, là, tu sais. C'est vraiment une ordure. C'est vraiment quelqu'un qui a profité de l'esclavagisme et de la suprématie blanche américaine. Andrew Jackson, c'est lui, en ce moment, aujourd'hui, qui est honoré sur les billets de 20$. Pourquoi c'est lui? Parce que... en fait, on prévoyait de mettre Harriet Tubman sur les 20$ à partir de 2020, à l'époque où le projet a été lancé sous Barack Obama. Mais quand Trump est arrivé, lui, il a décidé que non. Que ça, c'était une manœuvre politique pour se faire du capital politique. Puis lui, il a dit non, on va laisser le président esclavagiste Andrew Jackson sur les 20$, puis on mettra pas Harriet Tubman, qui, elle, est une vraie héroïne.
C'est une manœuvre politique, alors qu'on sait tous, évidemment, qu'Obama comptait se représenter. Hein?
Ben oui, ben oui. Non, ah oui, c'est prétexte stupide pour Donald Trump de juste exprimer une fois de plus son racisme, comme dans les émeutes de Charlestown où il disait il y avait du monde des deux côtés, du côté des nazis du Ku Klux Klan puis du côté des voyons maudit cave, franchement trouver des bonnes personnes de parler des bonnes personnes qui peuplent le Ku Klux Klan puis les je pense qu'il y a un petit parti pris. Hein. Fait que c'était prévu pour 2020 évidemment, c'est pas arrivé à cause de Donald Trump, mais Joe Biden a relancé les procédures, au moins. Puis, sauf que là, c'est retardé, puis ça pourrait aller jusqu'en 2026, voire 2028. Mais j'espère qu'un jour, on va mettre Harriet Tubman sur les 20 $.
Ça doit pas être une petite affaire.
Non, évidemment.
Une petite affaire, pareil, de retirer autant de billets, tu sais, puis d'en disposer comme il faut, puis...
Oui, c'est ça. Puis le Conseil du Trésor, tu sais, il faut qu'il deal avec tout ça. C'est pas quelque chose de simple, mais c'était prévu pour 2020, et c'est à cause de Donald Trump que c'est retardé maintenant, aujourd'hui, jusqu'en 2026-2028. Puis si jamais il devait gagner les élections, je pense que ça va aller encore pas mal plus loin. Il risque encore de se mettre à... d'entraver ce projet-là qui... Moi, je trouve que c'est une magnifique idée, là, de remplacer un esclavagiste par une héroïne qui libérait des esclaves. Ouais. Moi, je trouve ça magique. Puis,
de toute façon, Trump, c'est parce que l'autre affaire, c'est que il veut se faire réélire pour que ce soit sa face sur toute la monnaie. Ouais, oui, complet. Les cernes, les billes, toutes.
On va revenir avec des pièces d'or frappées de son portrait.
Ouais,
de profil,
voilà.
C'est espèce de Jules César de pacotille. Fait que ça marchait pendant pas mal longtemps, l'Underground Railroad, mais surtout entre 1840 et 1860, c'était la période la plus active. Il y a 100 000 personnes qui ont fui vers bon soit les États abolitionnistes du Vermont ou de New York, les territoires du Nord-Ouest, c'est-à-dire l'Ouest américain.
Le Nord.
Bon, mais le Mexique aussi, puis la Floride aussi, mais le Mexique, okay. Le Mexique beaucoup. En fait, sur les 100 000, il y en a 30 000 qui sont partis vers le Nord, qui ont trouvé la liberté au Canada. Ouais. Fait que c'est quand même une bonne portion, mais évidemment, ça partait dans tous les sens. C'était tentaculaire.
Ben, tout pour te pousser, dans le fond.
Oui, c'est ça. Au Mexique, il n'y avait pas d'esclavage, puis au Canada non plus, fait qu'on se poussait où on pouvait. Puis il y en a beaucoup qui ont choisi le Nord. 30 000 sur les 100 000 entre 1840 et 1860. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement-là, au-delà de libérer des gens qui étaient asservis en esclavage, ça a démontré, parce que même si c'était pas, on savait pas qui faisait ça, on n'était pas capable de démanteler le réseau, mais tout le monde savait que ça existait. Fait que ça démontrait aux autres Américains que, regardez, c'est possible de se tenir debout contre un gouvernement tyrannique, contre des lois inhumaines, puis c'est possible de lutter contre ça, puis c'est possible d'être un rebelle comme ça. Fait que ça a un peu préparé le terrain pour la guerre civile américaine qui a finalement abouti avec l'abolition de l'esclavage aux grandes dames des États du Sud avec leur drapeau confédéré de racistes. C'est un peu ça qui a lancé un peu les luttes pour la justice sociale, puis le militantisme et... c'est ultimement l'abolition de l'esclavage par la guerre civile. Fait que ça a pas juste fait sauver du monde pendant que ça fonctionnait. Ça travaillait pour l'avenir de ceux qui aujourd'hui vivent dans un pays qui pas mal plus le pays de la liberté qu'à l'époque de l'esclavage. Puis là, ben tu sais, c'est là où j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. On regarde souvent les Américains pour dire ben eux autres c'est des esclavagistes, nous autres au Canada on est bien mieux parce qu'ils venaient se réfugier ici. Ouais, c'est vrai, ils venaient se réfugier ici à partir de 1840-1850. Mais avant ça, ça aurait pas été une bonne idée. Pourquoi? Parce que Colin, il y en avait aussi des esclaves au Canada et c'était pas quelque chose de marginal. C'était quelque chose de généralisé. Ben premièrement, on collaborait beaucoup avec les esclavagistes parce que on faisait soit du commerce ou soit du troc, c'est-à-dire que nous, on vendait de la morue salée, du bois d'œuf, tout ça, ou on les échangeait contre des produits issus d'une économie esclavagiste, c'est-à-dire notamment dans les Caraïbes, de la mélasse, du tabac, du sucre, du rhum, tous ces produits-là étaient souvent issus de l'industrie qui employait des esclaves. Mais aussi, on a eu beaucoup d'esclaves ici même au Canada. Au début du 17e siècle, les colons, les commerçants, en fait, c'est pas mal la même période qu'aux États-Unis. Là, au début de 1600, 1610, 1620,
20. On a commencé à avoir pas mal d'esclaves ici aussi au Canada. Puis il y a une grande partie de ces esclaves-là qui n'étaient pas des Noirs, qui étaient... Attends, je vais faire une petite parenthèse. J'en ai parlé un peu avec les enfants ici, puis quand j'ai parlé des Noirs, le réflexe était « Raciste! » Hein? Comment ça, raciste? T'as dit noir! » Hein, OK, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, là, tu sais, j'ai traité quelqu'un de... OK, je peux comprendre, tu sais, le mot en haine, le mot nègre, OK, c'est évidemment raciste là, lorsqu'employé par quelqu'un d'autre qui a pas la peau noire, mais parler des Noirs, tu sais, là, c'est le mois de l'histoire des Noirs, tu sais, c'est pas raciste de dire ça, là, fait que là, OK, je suis content que vous soyez sensibilisés à détecter, dénoncer le racisme. Mais à un moment donné, faut comprendre un peu. Là. Puis j'ai dit ça au plus vieux ici quand il a répondu comme ça. Puis là, on a fêté sa fête. Il y a un de ses amis qui est venu. Puis quand il a entendu encore le mot noir, lui aussi, il m'a traité de raciste. Ben voyons donc. Fait que là, dans les écoles, là, assurez-vous de mettre des nuances un peu. Là, parce que oui, il faut que les enfants soient éduqués dans le sens de dénoncer puis d'être dégoûté par le racisme, mais faut pas non plus, tu sais, capoter puis en inventer. Il faut que ça, tu sais, il y a peut-être des nuances qui ont été perdues dans la façon d'enseigner. Mais là, bon, c'est mon expérience avec deux enfants d'une école.
Ouais,
parce que
non,
c'est pas généralisé, là. Mais ça m'a surpris, par exemple, d'entendre ça. Hein, t'as dit noir, t'es un raciste! Quoi?
je pense aussi que, tu sais, il s'est passé tellement de situations dans les dernières années, tu sais, que je te parle pas, je te dis pas qu'un enfant de 10 ans, lui, ou peu importe l'âge, a lu ça dans le journal, mais je pense que c'est le reflet de notre, on veut tellement éviter d'être maladroit que là, tu sais, peut-être qu'on en, tu sais, je veux dire, on veut pas se mettre le pied dans la bouche, on veut pas être celui ou celle qui va sortir, là, oups, tu sais.
On a peur des mots.
Ouais, puis là, puis en plus, ben, quand vient le temps d'enseigner ce qu'il y a de pas correct avec ça, t'as pas le droit d'utiliser les mots.
C'est exactement comme quand tu dénonces des conspirationnistes sur YouTube puis tu te fais déliter parce que t'as mis du contenu conspirationniste. Tu sais, c'est à un moment donné, c'est faut pas faire semblant que ça existe pas, puis faut pas, tu sais, il y a des nuances qui nous manquent là, OK? Mais au moins je suis satisfait de savoir que ils sont très très au courant que le racisme c'est une chose horrible, abjecte. Moi personnellement, c'est une des affaires qui m'écœure le plus parce que c'est juste motivé juste par de la haine et de l'ignorance, puis ces deux choses-là combinées donnent le racisme. Pour revenir à nos moutons et au Canada du début du 17e siècle, là, on avait beaucoup d'esclaves, puis les premiers esclaves qu'on a eus, c'était des Amérindiens qui venaient de la nation Pawnee, qui c'est dans le coin du Nebraska, Oklahoma, Kansas. C'est eux autres que des Canadiens, des Français de la Nouvelle-France achetaient pour travailler sur leur terre puis faire marcher l'économie de la colonie. Là. Tu sais, c'est épouvantable. C'est
hallucinant.
Oui, puis c'était pas juste des Noirs. Puis pour eux autres, c'est pas compliqué. Là. Tout ce qui était pas blanc, c'était des membres inférieurs de l'espèce humaine. Là. Fait que pour eux autres, des sauvages et des nègres, je fais des guillemets avec mes doigts à la maison. pour eux autres, c'était du bétail. C'était des possessions qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait vendre, qu'on pouvait léguer en héritage. C'était des biens.
Ça a aucun sens.
C'est épouvantable
sens.
De posséder un être humain. Ça n'a aucun sens. Là. Puis d'ailleurs, j'embarquerai pas là-dedans là, pour ne pas déraper, mais dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on endosse hein, ce concept-là d'esclavage. Au moment où l'esclavage a atteint son apogée, en Nouvelle-France, il y avait environ 4200 esclaves. Puis là, il n'y avait pas 8 millions de Québécois, là, tu sais, je veux dire, c'est la Nouvelle-France, là. Dont 2700 autochtones qui ont été réduits en esclavage jusqu'en 1783 et au moins 1433 noirs qui ont été jusqu'à la fin du 17e siècle, jusqu'en 1831, juste avant la période très active de l'Underground Railroad. C'est sûr, ils pouvaient pas venir avant, ils seraient restés esclaves.
Il y aurait juste
été d'esclaves où ce qui neige à place d'esclaves où ce qui fait chaud. Ça...
Mais qu'est-ce qui a mis un terme à ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte? Est-ce que nous autres aussi, on a eu au Canada, il y a eu un processus de... de rendre ça illégal ou ben non, c'est juste bon, OK, on le fait plus.
Je vais y venir. Je vais y venir, okay. Mais d'abord, je vais te dire comment c'est devenu légal. Tu sais, bon, il y a plusieurs témoignages, plusieurs. Un des premiers témoignages, mettons, d'esclavagisme en Nouvelle-France, c'est un garçon qui est originaire de Madagascar ou de la Guinée. Il avait moins de 6 ans. C'était vraiment un jeune garçon. Il a été emmené en Nouvelle-France en 1629 par les frères Kirk, hein, les fameux commerçants navigateurs britanniques qu'on connaît. Ils l'ont vendu à un commis français qui s'appelait Olivier Le Bélif. Qui est aussi le tardif, parce que tout le monde avait des noms qui finissaient plus. Puis on l'a. Il a été donné comme un bien, une possession, un beau cadeau à un certain Guillaume Couillard. Puis en 1633, le jeune esclave a été baptisé Olivier le Jeune. Puis il y en a un aussi qu'on a nommé, ça c'est fucking maudit, là. On l'a baptisé. On l'a pas baptisé, mais le. oui, on lui a donné un nom chrétien, c'est ça qu'on faisait. T'sais, on le baptisait avec notre religion, puis on échangeait son nom. C'est le deuxième récit d'esclave. Là, ce serait le deuxième esclave africain présent en Nouvelle-France. On l'a baptisé La Liberté.
Aïe, aïe, ce monde-là. L'ironie, ça existait-tu déjà dans ce temps-là? Ou...
Ben, pour moi, ça a été inventé à ce moment-là.
Ou l'imbécilité, ouais.
Pour moi, ça a été inventé à ce moment-là, précisément. En 1689, le roi Louis XV, il décide d'autoriser officiellement l'importation d'esclaves en Nouvelle-France. Fait que là, c'est lui qui a lancé le bal. Lui, il a dit, bon, ben, on a le droit.
Let's go.
Ouais, ouais. Puis en 1709, l'intendant Jacques Rodeau, qui lui régnait sur le Québec, a adopté une loi coloniale qui s'appelait Ordonnance rendue au sujet des nègres et des sauvages nommés Panis. Panis, c'est les autochtones qu'on réduisait en esclavage. On les appelait comme ça, mais c'était en grande majorité, c'était des Pawnees du Nebraska. C'est la première vraie loi qui autorisait l'esclavage en Nouvelle-France et qui renforçait évidemment la pratique parce que ça se faisait déjà un peu avant, mais là c'était rendu officiellement légal grâce à Jacques Rodeau. Merci beaucoup. Quand les Britanniques ont conquis la Nouvelle-France en 1660, dans les articles de capitulation, on pourrait dire « Ah, tu sais, ça s'est sûrement amélioré. » Non, pas vraiment. Il y a eu un article de loi qui disait « Les nègres et panisses des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français canadiens. » Donc, ils nous permettaient de rester catholiques et de posséder des esclaves malgré la conquête de nos terres. Il sera libre de les garder à leur service dans la colonie ou de les vendre, mais ils pourront aussi les faire élever comme de l'élevage, dans la religion romaine. C'est-à-dire, parce que contrairement à bien des endroits où les Britanniques ont pris possession du pays, des terres et tout ça, souvent on forçait le protestantisme comme nouvelle religion, mais ici, ils nous ont laissé la religion catholique. Pourquoi? Ben, je rentrerai pas dans les détails, mais ça faisait de nous des gens plus faciles à soumettre. Fait que dans cet esprit-là, ils nous permettaient d'élever nos esclaves dans la religion catholique romaine. Donc, après ça, on se transporte aux États-Unis à la guerre de la Révolution de 1775 à 1783. Là, il y a eu un accroissement incroyable du nombre d'esclaves. On a commencé à aller les chercher en Afrique avec des bateaux qu'on appelait des négriers, que c'était tout simplement des cargos qui transportaient des esclaves. Puis environ 3000 esclaves de d'ascendance africaine, hommes et femmes et enfants, ont été amenés en Amérique du Nord britannique durant les années 1790. L'Amérique du Nord britannique, c'est le Canada, là, parce qu'aux États-Unis, ils avaient fait leur indépendance. Donc, au Canada, il y en a 3000 esclaves d'ascendance africaine qui ont été amenés ici, là. Il y en avait au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard, environ 1200 à 2000. 300 au Bas-Canada, au Québec, entre 500 et 700 dans le Haut-Canada, qui est aujourd'hui l'Ontario. Fait que, puis tiens, je vais juste revenir rapidement sur la guerre d'indépendance américaine. Ça, c'est épouvantable d'apprendre ça. C'est qu'il y a beaucoup de Noirs, des milliers de Noirs qui sont libres ou esclaves, là, qui se sont battus pour les Britanniques contre les séparatistes, les Américains qui voulaient s'affranchir de l'Empire britannique. Ils se sont battus du côté britannique.
dans l'espoir de gagner la liberté, tu sais, de pouvoir dire, bon, ben là, tu sais, si on bat les Américains, on sera plus... Mais finalement, lorsqu'ils se sauvaient ou lorsqu'ils étaient accueillis dans ce qui restait de l'Amérique britannique, c'est-à-dire le Canada, ben, ils arrivaient ici, puis l'esclavagisme marchait encore. Fait que ils se sont sacrifiés pour rien. Ils se sont battus pour l'Empire britannique qui les ont maintenus dans l'esclavage au Canada, c'est-à-dire l'Amérique du Nord britannique. Donc, je vais essayer de me rendre à la question que tu m'as posée. Mais, tu sais, c'est étonnant de voir... Ben, moi, je savais pas qu'il y avait autant d'Amérindiens qui avaient été aussi des esclaves.
Moi non plus, tu m'as l'appris.
On pense souvent aux Afro-Américains.
Je savais qu'il y en avait eu, là. Je me rappelle d'avoir entendu des trucs, lu des trucs, qui mentionnaient que, tu sais, ce ne sont pas que les Afro-Américains qui ont été victimes de l'esclavagisme, là, tu sais, aux États-Unis, évidemment. Mais dans cette proportion-là, non, je savais pas.
J'en ai une qui va te surprendre aussi beaucoup. Il y avait des Autochtones qui possédaient des esclaves noirs. En 1799, une petite fille qui s'appelle Sophia Pooley a été enlevée et vendue comme esclave à l'âge de 9 ans à Joseph Brandt, qui était le chef de la communauté Mohawk. D'ailleurs, lui, il y avait plusieurs esclaves qui travaillaient pour lui. Fait que, tu sais, c'est pas juste des blancs pis des noirs, l'esclavagisme, OK?
Ouais, mais là, tu parles d'une petite fille, mais tu sais, c'était-tu généralisé? Y en a-tu eu beaucoup?
Ben lui, il y en avait plusieurs, là, tu sais. Fait que j'ai l'impression que n'importe qui avait de l'argent et du pouvoir était susceptible d'acquérir des esclaves. C'était une façon d'avoir de la main-d'œuvre à bon marché. Il y en a beaucoup qui servaient de domestiques. Il y en a qui avaient des emplois. Autant, on imagine tout le temps le champ de coton, mais il y en a qui étaient des nounous qui s'occupaient des enfants. Il y en a qui étaient genre commis voyageurs, qui remplissaient toutes sortes d'emplois, là. C'est juste qu'ils étaient pas payés, tu sais. Fait que c'est
mais, tu trouves pas ça weird? Je veux pas te faire dérailler, là, sans mauvais jeu de mots. Mais, tu sais, c'est weird aussi. Il existe des films dans lesquels, tu sais, on a... Je veux pas dire normaliser, mais tu sais, on montre, tu sais, c'est parce que il y a des films historiques dans lesquels, tu peux, des fois, ça peut être des comédies aussi, là, je n'ai pas qui me vient en tête, mais j'ai souvenance d'en avoir vu, qu'il y a une famille, il y a un ou des esclaves, puis on les montre comme les tenanciers de la place, la famille qui les possède, sont fins avec eux autres. Tu sais, parce que le film traite pas de ça spécifiquement.
Ouais, ouais.
C'est pas mieux, là.
Mais les esclavagistes, il y en a qui étaient pires que d'autres. Il y en a qui les traitaient de façon plus humaine, puis il y en a que c'était carrément inhumain qui les
battait.
Mais
c'est de l'esclavagisme quand même. C'est cette espèce de prétention que, regarde, t'es aussi bien. Tu sais, c'est comme le fameux livre qui en Floride, là, je me souviens plus c'était qui avait fait cette citation-là. Tu sais, être un esclave, c'est moins pire qu'être mort. Tu sais, genre, en voulant dire, tu sais, t'aurais pas, vu que t'es noir, t'aurais pas pu subvenir à tes besoins, tu sais, vu que t'es un sous-humain. Fait que t'es bien avec nous autres, puis des fois, il va falloir que tu fasses des affaires que t'aimes pas. Tu sais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Oui, oui. Tu sais, puis justement, tu sais, ce qui frappe l'imaginaire, c'est évidemment les films puis les images qu'on voit, tu sais, de champs de coton puis d'esclaves battus dans le sud des États-Unis. Puis il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais au Canada, on était moins pire. Ben là, écoute, on n'était pas là, c'est pas nous autres qui l'a vécu. Fait que nos gueules, collectivement, là.
Ouais.
Puis quand on regarde la littérature puis la mentalité de l'époque, au Canada comme aux États-Unis, les Noirs, les Autochtones, qu'on nommait les sauvages, étaient quand même considérés comme des sous-humains, des êtres inférieurs. Fait que c'est difficile de déterminer qui traitait le mieux. Je veux dire, c'est un esclavagiste, c'est un esclavagiste. Priver quelqu'un de sa liberté, c'est le même crime au nord ou au sud de la frontière. Fait que, tu sais... Mais il y a quand même des endroits où c'était beaucoup mieux, notamment les territoires du Nord-Ouest, là, qui sont pas mal le Michigan, l'Ohio, qui n'étaient pas encore des États à l'époque, là, c'est pour ça qu'on les détermine comme ça. Là, eux autres, il n'y avait pas d'esclavage là. Puis le Vermont et l'État de New York étaient des abolitionnistes de première heure, c'est-à-dire en 1797-1799, c'était déjà interdit l'esclavagisme, fait qu'il y en a beaucoup qui se sauvaient là. Puis
les maudits Yankees.
Ouais, c'est ça. Puis Puis d'ailleurs, tu sais, ce qui fait que ça fonctionne, que ça a fonctionné si bien que ça, le Underground Railroad, particulièrement au Canada, c'est grâce à la première loi. Puis là, je vous épargne un paquet de lois qui ont passé parce que je sais que le temps avance, tout ça. Mais il y a eu des lois, tu sais, il y en a beaucoup qui renforçaient l'esclavage. Il y en a qui visaient à restreindre l'esclavage. En 1793, je vais aller rapidement, il y avait une loi qui restreignait un peu l'esclavage dans le Haut-Canada, c'est-à-dire l'Ontario. Ça disait que à partir de 25 ans, t'étais plus un esclave, puis tu devenais un homme ou une femme libre, et tes enfants naissaient libres. Fait que déjà là, il y avait une tentative de corriger un peu, mais la vraie première loi anti-esclavagiste, elle a été présentée au Parlement de Grande-Bretagne, puis elle a eu la sanction royale le 28 août 1833, ça veut dire 7 ans avant la période d'or de l'Underground Railroad au Canada. Fait que
puis avant ça, c'était de l'esclavagisme light.
Ben, c'est de l'esclavagisme jusqu'à ce que t'aies 25 ans.
Ben ouais, mais c'est pas, ça cautionne pas le fait que sois de 0 à 25, là.
Non,
c'est ça. L'esclavagisme light. T'offres jusqu'à 25, après ça, tu vas être libre.
Je l'ai torturé, mais tu sais, doucement, tu sais. J'ai pas mis
le
clou au bout du bâton.
Là, t'es rendu à 24, tu vas voir, on va te faire passer une belle année.
Mais fait que dans le fond, la loi est entrée en vigueur dans l'Empire britannique, évidemment, qui comprend l'Amérique du Nord britannique, donc le Canada, le 1er août 1834. Puis c'est ça qui faisait que dès que l'esclave traversait la frontière canadienne, il devenait libre, ou dès qu'il franchissait aussi les États abolitionnistes, il devenait libre. En arrivant, fait que c'est ça qui a fait du Canada une destination très prisée de l'Underground Railroad. C'était un des meilleurs terminus parce que en arrivant là, tu étais libre, personne pouvait te posséder, puis les esclavagistes, puis les ordures qui étaient à ta poursuite étaient obligés de s'arrêter à la frontière parce que sinon ils auraient agi dans l'illégalité, ils n'avaient aucune juridiction. De notre côté.
Fait que, chance que c'était pas Poilievre au pouvoir dans ce temps-là, parce que là, tu sais, quand il serait arrivé ici, il aurait dit, ben là, faut que tu sois fin, faut que tu veuilles travailler, faut que tu. Tu sais, c'est. Non, se sauver de l'esclavagisme, là, c'est pas assez. Non, tu peux pas rentrer ici.
Puis honnêtement, je pense qu'il voulait travailler. Il voulait juste être payé, puis pas être possédé par personne. T'sais, posséder un être humain, ça sera toujours immoral.
Je comptais ça plus du point de vue de notre maillet en chef.
Qu'il faut défendre la frontière.
Ouais, c'est sûr.
L'invasion. Fait que c'est en 1800, le 1er août 1834, officiellement, que l'esclavagiste a pris fin au Canada, puis ça a ouvert la voie... À l'Underground Railroad, qui existait déjà, mais ça allait plus vers la Floride, vers le Mexique, tout ça. Mais on est devenu une destination de choix à ce moment-là. Puis, comme je le disais, c'est plus de 30 000 esclaves entre 1840 et 1860 qui ont trouvé la liberté au Canada. Mais faut faire attention avant de lever le nez sur les Américains puis de dire que c'était un pays d'esclavagistes parce qu'on l'a été jusqu'en 1793. Puis ça aussi, faut s'en rappeler.
Rappelez-vous également que vous n'avez pas du tout à vous déplacer pour avoir de succulents produits de fromage au village. Vous avez simplement à vous rendre du bout des doigts sur fromageauvillage.ca/boutique et utiliser le code rabais Deep Steak ou Touski TV ou Globo et obtenir 10% de rabais sur vos commandes et qui n'auront pas de frais de livraison si elles excèdent 75$. Le chiffre magique, c'est 86 en utilisant le code rabais. Et tout ça vous est envoyé dans les règles de l'art et dans des délais plus que raisonnables et tout est frais dans une petite glacière en plus que vous pouvez récupérer pour vos besoins. Parfait pour aller à la pêche aussi. Ouais. Donc, oui, tout à fait. Ça,
il y a un
superbe vivier, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Puis, allez faire un tour. Merci à Christian, à Anne, bien sûr, et à Hélène d'être encore, après toutes ces années, associés au crachoir. Si vous nous avez découvert ce soir, vous êtes venu faire votre tour sur Touski TV. C'est très sympathique. Et vous pouvez découvrir encore plus de notre contenu en audio, c'est-à-dire en vous rendant sur toute bonne plateforme de podcast. Google Podcast is dead. Donc, Apple Podcast, Spotify et nos amis de baladoquebec.ca. Sinon, encore plus de contenu exclusif. La communauté, bien sûr, du Deep State, vous rendez sur patreon.com/crachoir et tout est très bien expliqué. C'est très simple. D'ailleurs, de petites salutations à tous nos membres au passage, ainsi qu'à nos All Stakers qui ont le droit, en vertu de leur membership, d'assister, n'est-ce pas, à l'enregistrement des épisodes lorsqu'ils ne sont pas live, bien sûr. Voilà.
Pour la chanson de la semaine, c'est pas un mash-up, c'est rien de drôle, c'est quelque chose de magnifique que j'ai trouvé. Je cherchais une chanson qui parlait de l'abolition de l'esclavage. Puis j'en voulais une en français. J'ai mis la main sur une chanson qui date de 1794, c'est-à-dire l'année du décret qui a mis fin à l'esclavage en France. En fait, c'est une chanson de la Révolution française, mais qui parle justement de la fin de l'esclavagisme.
Ça fait longtemps, c'est sur YouTube.
Ça fait des siècles que c'est sur YouTube.
Hey, ils ont mis ça sur YouTube en 1780.
Évidemment, la version que vous allez entendre a été enregistrée bien après cette date-là, parce qu'on pouvait pas s'enregistrer dans ce temps-là, mais elle a été quand même composée en 1794 par Pierre-Antoine Augustin de Pilis, et elle célèbre évidemment la fin de l'esclavagisme, l'abolition de l'esclavage par la Convention nationale dans la France révolutionnaire, et je trouve qu'elle se prête très bien à l'émission qu'on vient de faire. Elle s'appelle « La liberté des nègres ». C'est chanté par une chorale. T'sais, je sais pas en quelle année la version que j'ai a été enregistrée, mais ça sonne vieux, mais ça sonne très bien. Écoutez les paroles. C'est évidemment, c'est pas un français très actuel d'aujourd'hui, mais on comprend quand même très bien.
Je pense que Nicolas Tétrault était dans la chorale.
Dis pas ça. OK, on écoute ça, puis restez là pour l'after show. Ça va être quelque chose. Salut.
Que savez-vous, républicain, quel sort était le sort du nègre? Parmi les humains, un sage décret réintègre. Il était esclave en naissant, puni de mort pour un seul geste. On vendait jusqu'à son enfant, le sucre était teint de son sang, de son sang. Daignez m'épargner tout le reste. Daignez m'épargner tout le reste. Vous proclame aujourd'hui nos frères, vous aviez à la liberté les mêmes droits héréditaires. Vous êtes loi, mais le bon sens repousse un préjugé funeste. Seriez-vous moins intéressant aux yeux des républicains blancs, blicains blancs? La couleur tombe et l'homme reste. La couleur tombe et l'homme reste.
Membre de la famille H2O Web Media.